Toi, Brestoise, nous sommes le mardi après la rencontre et ça y est, Alban Lafont se décide enfin à tirer un 6 mètres. Bienvenue pour ce 18e épisode de Brest On Air, l'épisode peut-être de la maturité, même si il y a peu de chance avec les deux personnes que j'ai avec moi. Fange d'un côté. Salut. Bonjour. Fange, comment vas-tu?
Eh bien, c'est la forme, tout va bien. Bonjour
bien.
À tout le monde,
et...
bonjour à Yann.
Pardon, comment?
Je souhaite également le bonjour et la bienvenue à Yann.
Eh oui, Yann qui est de l'autre côté, le troisième larron de...
Bonjour monsieur.
Comment vas-tu Yann?
Bon, je vous avoue que je suis toujours dégoûté du match de samedi dernier, mais bon, ça va.
Pour pas trahir,
justement.
Pour pas trahir le, comment dirais-je, le, les coulisses, on a eu un Yann très remonté pendant tout l'après-match samedi. Il a quasiment rien mangé.
Oui, et ça n'a pas été aidé par la sortie du documentaire Netflix sur le petit Grégory, qui a fait un gros carton dans ce qu'on peut appeler la rédaction de Brest On Air.
Qui mérite
peut-être
un podcast
à venir sur le petit Grégory. Alors, pas de petit Grégory, malheureusement, pour ce 18e numéro de Brest On Air, mais un joli podcast et un joli programme à venir néanmoins, puisque nous allons donc revenir sur le match nul le week-end dernier entre le Stade Brestois et le FC Nantes. On passera ensuite aux traditionnelles news avant d'attaquer le gros morceau de la semaine, c'est-à-dire le déplacement du côté de la cité phocéenne, appelée d'après son créateur Julien Lafosse, Fossurier, évidemment. Nous aurons ainsi donc Maxime du site Ultimo Dies pour nous parler de notre prochain adversaire. Et on terminera après une requête unanime des auditeurs sur le retour des jeux. Les jeux de la semaine qui seront présentés cette semaine par Yann, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Mais avant les jeux, avant Marseille, avant les news, revenons sur la réception du FC Nantes. C'était donc samedi à Francis Leblay. On a plus ou moins évité la pluie, ce qui était une bonne nouvelle compte tenu de la météo, rien que voilà, quelques heures avant la rencontre, et depuis et avant aussi cette rencontre. Donc c'était plutôt agréable à ce niveau-là, mais on a encore perdu 2 points, et c'est un peu un match qui régime la saison pour l'instant du Stade Brestois.
Ah oui, tu as tout à fait raison,
Merci.
Content de voir que tu dises qu'on a perdu 2 points, parce que je pense effectivement que c'est encore 2 points qui s'échappent, et 2 points, plus 2 points, plus 2 points, plus 2 points, on est déjà au 18e podcast, et j'ai l'impression que c'est la 5e ou 6e fois qu'on tient ce discours. C'est des points qui vont peut-être valoir cher en fin de saison et des points qui pourraient manquer. Alors bon, tu parlais d'épisode de la maturité peut-être pour le podcast. Je trouve que Brest, là, match après match, commence à avoir du mal à atteindre sa maturité malgré des belles intentions et de belles performances de temps en temps, hein, mais c'est pas assez constant.
Bah, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que c'est 2 points perdus en effet, mais c'est 2 points perdus contre ce qui est pour moi la pire équipe qu'on ait vue à Leblay cette saison. Pour moi, c'était pire que Metz, c'était pire que Dijon, et de très loin.
Et on fait
Lyon. Lyon, c'est différent, parce que je pense qu'on peut mettre ça sur le... On sait que Lyon, c'est une équipe de toute façon qui n'est pas de notre championnat et qui n'était pas à son vrai niveau face à nous, parce qu'ils valent vraiment mieux que ça avec les joueurs qu'ils ont. Tandis que Nantes, je sais pas si tu... Enfin, on était d'accord pour dire, et toi, Quentin, tu disais notamment que avant le championnat, tu mettais Nantes dans la charrette. Je pense que ce match peut te donner raison, parce que même s'ils ont fait un très bon début de saison, c'était vraiment très faible et je ne sais pas si c'est la plus mauvaise équipe vue à Leblay cette année. En tout cas, c'était une des plus faibles, ça c'est sûr.
Bah, moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai parlé un peu avec Elliot, qui était notre invité la semaine dernière. C'est qu'il nous disait que leur entame de match était une de leurs meilleures de la saison. Alors que c'était pas mauvais, mais c'était loin d'être bon et c'est alliance débitant avec le temps. Quoi. C'était
vraiment très faible. Je trouve que la première mi-temps n'était pas du tout au niveau et on a été encore dans la réaction plutôt que dans l'action en fait. Enfin, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Après, je pense que ça peut s'expliquer aussi par le nombre d'absents et le manque de repères qu'on avait au milieu de terrain. Et du coup, on a été un petit peu perturbé par rapport à ça. Et alors, je veux absolument pas jeter la pierre à Mbok hein, qui est jeune et qui fait son premier match, mais je l'ai trouvé timide, ce qui peut être totalement compréhensible hein, sur un premier match en Ligue 1. Mais du coup, sur un début de match, je pense que les Nantais en ont pas mal profité. Et on a mis du temps à vraiment rentrer dans la rencontre presque une mi-temps. Et du coup, si on joue que 45 minutes sur 90, bah forcément, c'est plus compliqué de gagner les matchs.
Le point que tu donnes sur le milieu, ça lance une question. Je pense que Quentin avait prévu de la lancer de toute façon, mais est-ce que le passage en 4-4-2 au lieu d'un 4-3-3 nous a pas été défavorable au final?
Mais est-ce que c'était vraiment un 4-4-2 déjà? Parce qu'on connaît la propension de Gaëtan Charbonnier à décrocher. Même Cardona joue pas mal sur le côté finalement. Il fait des appels sur le côté. D'ailleurs, le but vient de sur le côté, même si Mendy était rentré. Mais justement, qu'avez-vous pensé de cette composition? Donc il y avait beaucoup de blessés, Belskebla, Batocchio et compagnie, Johan Cour évidemment.
Il a fait ce qu'il pouvait, pour le coup, il a fait un peu la moins pire, je trouve. Enfin, je veux pas jeter la pierre, je vois pas ce que j'aurais fait de différent, moi, personnellement, sur ce match.
Il y avait le débat entre peut-être Mbok, Magnetti, faire jouer Otret dans l'axe.
Après, Mbok, Magnetti, je pense pas que ça aurait changé la phase du match, tu vois. Ça aurait été je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Après, moi, je suis un petit peu déçu, on reviendra peut-être sur les performances individuelles après, mais on parlait du retour de Romain Perrault derrière. Bon, moi, si je suis Ludovic Ball, je comprends pas pourquoi j'ai perdu ma place. Mais bon.
Après, moi, je vais revenir sur l'action en général. J'aurais pris les mêmes joueurs que Dalloglio.
Oui, tu avais d'ailleurs proposé Mbok dès le podcast numéro 17. Donc peut-être que Olivier Dalloglio, on salue s'il nous écoute, avait déjà écouté l'épisode précédent.
J'avais aussi évoqué l'idée d'un 4-4-2, puisque pour moi, ça l'était. Mais avec du recul, en fait, je me dis que ça aurait été mieux d'avoir Otret dans l'axe. Déjà, parce que c'est un poste qui lui correspond plus. Sans qu'il ait été spécialement mauvais, hein, pour une fois. Mais puis même, je trouve qu'il manquait vraiment quelqu'un dans l'axe sur les relances rapides. Tu vois, tu disais que Charbonnier descendait beaucoup, c'était vrai. Mais sur
je trouvais que c'était flagrant cette fois-ci. Je trouvais que c'était vraiment flagrant, Charbonnier qui... Il était vraiment très bas et aussi très excentré. Mais ce qu'il fait, en fait, il le fait bien. Donc, voilà, on a toujours le même débat. En plus, c'est vraiment dommage qu'il tire sur le poteau parce que je pense qu'un but lui aurait fait du bien. Et puis aussi, ça aurait fait du bien à mes paris parce que j'avais parié ça au dernier podcast. Mais bon, mis à part ça, il a fait quand même un bon match. Mais du coup, bah, fatalement, tu disais Quentin Cardona va sur un côté. Charbonnier décroche énormément. Au trait, on a quand même beaucoup de mal à le servir. Je ne veux pas faire une fixette et faire du bashing, ce n'est pas le but du podcast du tout. On a quand même pas mal de mal à le servir au fur et à mesure que le match avance, parce qu'il se fatigue très vite. Hein. Passé la 60e minute, il n'y a plus personne. On a quand même un problème. Pour marquer des buts, en ce moment, c'est un peu un chemin de croix.
C'est vrai, et tu parlais de Gaëtan Charbonnier qui décroche et qui s'excentre régulièrement. On voit quand même des affinités assez nettes entre au trait, Charbonnier, Fossurier, donc les anciens de l'effectif, et presque systématiquement. Et c'est aussi lié au fait que Samuel Grandsir est un ailier pur, contrairement à Retraite qui est plutôt un meneur de jeu excentré, si on peut dire ça comme ça. C'est systématiquement côté droit qui décroche. Donc on sent vraiment des affinités et le jeu penche très largement côté droit. Enfin, tu parles de 4-4-2, Yann. Pour moi, ça allait sur le papier, quoi. Mais ça n'est pas vraiment dans les faits, avec beaucoup de permutations. Et quand tu fais face à un bloc qui joue en presque en 5-4-1, parce qu'il y avait vraiment deux lignes, une ligne de 5 et une ligne de 4 qu'on pouvait voir très facilement sur le terrain, bah, tu es obligé de permuter, tu es obligé de provoquer du mouvement. Et finalement, le 4-4-2, oui, sur le papier, mais finalement, sur le terrain, c'est pas vraiment un 4-4-2, quoi.
Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé aussi sur ce match, c'est que du coup, Charbonnier, là-bas, il s'est beaucoup excentré, Cardona également, alors qu'on savait que les Nantais ne disposaient pas de leur charnière centrale. Alors, je pense qu'il aurait fallu insister davantage. À partir du moment où on a insisté dans l'axe et qu'on a commencé à accélérer un petit peu, on les a mis en danger tout de suite, notamment leur défenseur central, dont le nom m'échappe, qui dégageait absolument tous les ballons en touche ou un petit peu n'importe comment. Je pense que si on les avait mis sous pression beaucoup plus tôt dans le match et en les faisant douter, alors on sait que leur gardien, en plus, on avait dit, il n'est pas excellent cette année, ça s'est confirmé, on aurait pu ouvrir le score. Et si on ouvrait le score, à mon avis, Nantes ne revenait pas au score. Bon, c'est facile à dire après coup, hein, mais on n'a pas assez insisté sur cette charnière qui était vraiment expérimentale. Et en plus, Bacilla prend un carton jaune très tôt dans le match et il fallait aller le provoquer, quoi, et on ne l'a pas fait. Et moi, ça me faisait enrager vraiment de voir Charbonnier si loin, même s'il fait des choses bien. Finalement, il faut que quelqu'un prenne la place devant, quoi. Dans ces cas-là, Charbonnier prend la place d'Autrette et on met quelqu'un d'autre, parce qu'Autrette, il n'arrive pas à remplacer Charbonnier devant.
Et ce que tu dis, c'est très intéressant et c'est quelque chose que... Enfin, c'est une remarque que je me suis fait en revoyant le match après à la télé. Ce qui nous a vraiment manqué sur ce match, c'est des duels, en fait. On fait des différences collectivement, mais au moment d'aller au 1 contre 1, Bah, il n'y avait pas grand monde. Il y a le grand cirque à essayer, mais voilà, c'était pas son soir. Ça arrive. Mais c'était le seul qui essayait. Les autres, enfin, Autrette a quasiment pas été au duel. Charbonnier non plus. Cardona a essayé.
Pas intermittent. Cardona a essayé. Cardona, c'est bien parce que son profil est tout en percussion. Après, Grand Cyr, il a beaucoup de déchets, mais il essaye aussi. Donc, ça, on ne peut pas lui enlever. Voilà, j'aimerais bien qu'il passe ce cap. Je pensais que le but contre le PSG lui aurait donné une dose de confiance un peu supérieure. Je n'ai pas beaucoup aimé son match sans qu'il soit catastrophique, hein, mais il n'a pas fait suffisamment de différence à mon goût. Et comme tu dis, voilà, les duels, on n'a pas un jeu de duel. On est timide. On a été assez timide sur ce match. Et je pense que des hommes de caractère comme Belkebla ou Lan manqué, les absents ont eu un peu raison sur ce match.
On en revient au débat régulier, c'est le manque de talent offensif, je dirais. Manque de talent individuel.
T'en parlais il y a déjà dans plusieurs podcasts de ça. Et effectivement, ouais, il y a un manque de talent. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut trouver du coup des solutions pour pallier ce manque de talent. Et je sais pas comment. Si on a une crise de confiance un peu devant et qu'on passe encore quelques matchs sans marquer. En ayant des difficultés à le faire, en tout cas, on peut être en difficulté très rapidement.
Bah, au-delà de la question du talent, sur ce match-là contre Lens, ce qui m'a dérangé, c'est la question de la volonté. Pas que les joueurs ne soient pas impliqués, mais aucun n'a essayé de faire le. C'est bizarre à dire, mais de faire la différence tout seul. Il y a eu plein de situations à droite où on voit Autrette qui a le ballon, puis qui en fait il temporise pour que Fossure arrive au lieu d'aller chercher un duel lui-même. Faut savoir allier les deux, quoi.
Au milieu de terrain, il y a eu très peu de passes aussi qui ont cassé des lignes. Alors, il y a une très belle passe d'Embok pour Charbonnier qui frappe sur le poteau. Cette passe, elle est superbe. Je vous conseille de la revoir. Elle est vraiment toute en verticalité. Mais il y en a eu bien trop peu. Ça aurait été intéressant de trouver un schéma des passes du milieu de terrain, des transmissions au milieu de terrain. En fait, ça passe constamment par le côté. Et on performe jamais dans l'axe. Et je regardais des équipes qui jouent le maintien. Je regardais Strasbourg, par exemple. Je regardais... qui est-ce que j'ai vu d'autre cette semaine, ça va pas me revenir, mais regardez le match de Strasbourg à Amiens, c'est vraiment hyper vertical, ils vont à 1000 à l'heure vers l'avant, et je pense que, en plus c'est notre prochain adversaire à Le Blé, ça peut faire très mal face à nous.
Après, à notre décharge, on jouait pas à Amiens non plus, on jouait à un bloc méga regroupé, avec peut-être 5 joueurs dans l'axe et 2
avec un scénario défavorable en plus, avec un scénario où ils mènent au score, donc c'est sûr qu'ils allaient pas se découvrir, t'as raison.
Donc, pour moi, on a quand même fait un bon match. C'était un bon match dans sa globalité.
Bonne deuxième mi-temps, je dirais. Pour moi, la première n'est pas au niveau.
Bah, jusqu'au but, je dirais. Après, par la force des choses, Nantes nous a un peu laissé le ballon. Je pense qu'ils l'auraient fait, même s'ils n'avaient pas marqué le but, mais ça les a confortés dans leur idée de nous laisser le ballon. Et enfin, on a eu du mal à savoir quoi en faire. C'est lié, tu en parlais, avec les absents et au manque de repères, avec notamment Mbok, qui... Je trouve qu'il a pris confiance quand même au fil du match. C'était timide en première mi-temps. Et il aurait quand même dû marquer. Hein, avec un Nantais qui ne sait lui-même, j'imagine, ne sait pas ce qu'il faisait là au niveau de son gardien. Mais qui était là en beau moment, au bon endroit pour dévier.
Après, c'est intéressant de voir Mbok. C'est intéressant de voir quand même Mbok, même si c'est un match timide, on est tous d'accord là-dessus. Je sais pas, tu me rappelles son âge, Quentin? C'est 19 ans. 19 ans, premier match de Ligue 1 titulaire. Bon, voilà, on n'est pas non plus un jeune qui fait son début de carrière professionnelle en Ligue 2 à Chambly ou à Rodez. Hein. C'est quand même un match très sérieux. Il n'a pas fait de tâche, je veux dire, au milieu de terrain. On s'est pas dit, ouais, le boulet que Brest s'est récupéré au milieu. Je pense que ça peut être intéressant à revoir, je dirais, Mbok. À revoir. Le problème pour lui, c'est qu'il y a aussi des cadors à son poste.
C'est ça, le problème, si on le revoit, c'est que Belkebla et Batocchio sont blessés et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc finalement, on a envie de le revoir. On le reverra sûrement d'ailleurs en Coupe de la Ligue, mais finalement, si on le revoit, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Donc, je voulais aussi rajouter que, enfin, je dirais que la progression de Mbok, c'est la norme, et on n'est pas dans une situation avec Mbappé, par exemple, ou Kamavinga, qui donne une idée assez tronquée de ce que doit être un jeune joueur, et enfin, qui réussissent dès leur arrivée en pro. Et c'est pas la norme, ça. Ça, ce sont des cadors. Des talents générationnels qui font la différence d'entrée. Et le jeune joueur qui est, par exemple, formé à Brest, pour Mbok, à moins qu'on sorte un crack comme peut-être celui qui arrive, qui est en équipe de France U16, ça n'arrivera pas, quoi. Il faut un minimum de patience et il faut que, bah, que les étapes soient passées.
À l'image d'Ibou Sissoko, en fait, un petit peu sur le même
voilà,
profil.
Voilà, tout à fait.
En augmentant un petit peu le nombre de matchs et puis se faisant sa place, puis ensuite, à la différence près que Sissoko avait commencé en Ligue 2 avec Brest. Quoi. Après, ça peut aller vite aussi. Hein.
Ou même, on a l'exemple de Diallo, hein, qui a pris son temps pour s'imposer.
On y était.
Oui, c'est vrai. Et voilà, ça fait tant, suffisamment d'exemples pour garder un peu de patience.
Après, je pense qu'aucun de nous trois n'a envie de critiquer le match d'Embok.
Non, parce que moi, je trouve plutôt bon. Comme je disais, une première mi-temps timide, et ensuite, il s'est affirmé. Et tu parlais de la très bonne passe qui casse les lignes. Je pense que c'est l'une de ses qualités. Autre que sa frappe de balle, il a failli une fois égaliser donc en première mi-temps. Et il a failli aussi donner l'avantage à son
en
équipe
deuxième.
En deuxième mi-temps. Voilà, c'est un très bon tireur de coup de pied arrêté. Il a beaucoup de qualités et je pense que Olivier Dalloglio le voit. Finalement, les matchs amicaux lui ont donné cette chance de faire partie de l'effectif professionnel cette saison. Et voilà, il ne demande qu'à progresser et qu'à jouer. Et j'ai hâte de le voir contre Bordeaux. Peut-être au stade, peut-être pas. Mais ça, c'est un autre débat. Que penser par contre du but encaissé? Est-ce qu'il est évitable?
Il est évitable, mais il est surtout hyper chanceux, quoi. Franchement.
Ah, il est malheureux, quoi.
Ouais, effectivement, du côté dans lequel on se place, mais Yann.
Il est d'autant plus malheureux que, bon, on va dire que c'est mauvais esprit, mais pour une fois, Mathias Autraite défend très bien. Sauf que voilà, il n'a pas de chance. Mais pour une fois, il fait bien son boulot défensif. C'est ça qui compte le ballon, et puis voilà, ça fait un but à la
con. En plus, il reprend du talon, il a un vieux rebond, c'est parce que c'est mouillé.
Il essaye quand même de la prendre de la tête, hein. Faut le rappeler, ça, quand même.
Après, c'était un joueur, Koulibaly, qui m'a un peu surpris, parce que je le pensais plus lent que ça, j'ai trouvé assez rapide. Bon, pas du tout à l'aise hein, avec ses jambes, mais il a quand même fait mal à Denis Bain, notamment, qui a été un peu en galère sur ce match.
C'est vrai.
Après, c'est totalement le profil que Brest n'a pas, hein. Il faut l'avouer.
C'est un bourrin.
Un bon bourrin, but évitable. On prend un but totalement évitable et on en arrête un qui était inratable quelque part. Donc ça compense.
On y reviendra peut-être dans les performances individuelles des joueurs. D'ailleurs, on peut peut-être passer aux performances individuelles, puisque j'en parle.
Oui.
On va peut-être commencer par votre homme du match.
Je pense que Cardona, hein, moi de mon côté, c'est lui qui a fait le plus de différence, qui égalise et qui au-delà de ça a montré un visage et un état d'esprit vraiment remarquable sur le match. Il a vraiment la rage je trouve que c'est bien, il se donne à fond, il est un peu sans complexe alors qu'il découvre la Ligue 1, faut pas l'oublier. Il devient meilleur buteur du club avec 3 petits buts, c'est quand même assez réduit, mais bon. Moi, c'est lui mon homme du match. J'ai hésité avec Gauthier Larsonneur parce qu'il nous sauve aussi, il nous évite d'être mené 2-0. Donc, si vous me permettez, deux hommes du match, c'est ces deux-là.
Bien, moi, je ne te permets pas deux hommes du match puisque moi, je prends Gauthier Larsonneur. Donc, comme ça, je complète. Au-delà de son arrêt incroyable, bon, il a été aidé par un Koulibaly vraiment pas adroit sur le reste des actions. Mais aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est encore une fois son jeu au pied. Je sais que certains sont pas convaincus, mais c'est de mieux en mieux au pied. Il prend de plus en plus de risques. Je me rappelle d'une relance où, en gros, il monte vers l'avant pour effacer Koulibaly et puis te met une transversale exceptionnelle sur le côté gauche. Voilà, il prend son aise au pied et pour l'instant, il n'y a pas de raté. Donc, c'est très utile. Ça offre une autre possibilité pour repartir.
Il y a eu un raté contre Toulouse le premier match. Mais depuis, c'est effectivement assez propre. Et d'ailleurs, l'action dont tu parles, je crois que ça débouche sur une très grosse occasion, avec un tir de Charbonnier contré, il me semble.
Il me semble que c'est ça, oui.
Personnellement, moi, ce sera Cardona également, comme Fanch. Il y a du Ribéry, moi, j'ai trouvé. Toute proportion gardée, je ne dis pas qu'il va faire la carrière de Ribéry, mais je dirais qu'on n'a pas eu un joueur comme ça à Brest depuis Franck Ribéry. Capable de faire les différences individuelles, très tonique, très plutôt intelligent dans ses remises, dans ses déplacements. Mais par contre, il manque un peu de justesse technique encore et quelques choix un peu laborieux, comme cette tentative de lob de 45 mètres, alors qu'il y avait un bon coup à jouer sur une contre-attaque.
Ouais,
mais globalement, il a vraiment toutes les qualités d'un bon joueur et ça semble être une excellente pioche. du mercato, comme on pouvait, comme ses entrées en jeu, finalement, pouvaient
le laisser deviner.
Le laisser espérer, ouais.
Voilà, c'est parfait. Alors, en défense centrale, effectivement, tu parlais de Denis Bain, un match un peu plus timide de Denis Bain, et outre son match défensif, je dirais qu'il a eu aussi cette tendance à ne pas prendre de risques offensivement, alors que c'est vraiment un match où on aurait pu utiliser sa qualité de relance, ou c'est son embryon de qualité de relance qu'on a pu voir sur quelques matchs depuis le début de saison.
C'est après un match sans, peut-être, on peut le dire. Il avait un client aussi sur le dos, physiquement, qui lui a pas facilité la tâche. Après, voilà, je pense qu'il y a des matchs où tu te sens moins bien, où tu passes à côté, et ça remet pas en cause la charnière. En plus, il y avait un papier du Télégramme qui mettait en valeur la charnière centrale juste le match avant, la journée avant le match. Moi, je pense que c'est une passade. À voir à Marseille maintenant comment il réagit. Ce sera pas facile là-bas. Mais bon, c'est rien d'inquiétant pour moi. Un match un peu loupé, mais ça peut arriver.
Tout à fait. Alors, son partenaire de défense centrale, Castelletto, lui, était plutôt bon. Que de chevaucher fantastique comme il en a laissé, comme il en a fait quelques-unes depuis le début de saison. Pareil pour Julien Fossurier, plutôt très bon aussi.
Très lui, c'est vraiment incroyable.
Une constance assez rare dans l'effectif.
Franchement, on a envie de le féliciter à chaque fois. On dit toujours, il fait ce qu'il sait faire, il fait pas ce qu'il sait pas faire, mais ce qu'il sait faire, il le fait bien. Et c'est plutôt une très bonne surprise, Fossurier, cette année.
Parce que lui aussi avait un client sur le dos, pour le coup.
Mais... Ah oui, en plus, Yann en avait parlé avant le match.
Et finalement, il l'a enlevé de sa poche dans les vestiaires. Oui. Et du coup, Simon Moses s'est retrouvé dans le vestiaire brestois. Il n'a pas dû apprécier. Mais donc, l'autre défenseur, ce sera Romain Perrault. Donc, Fanch, tu avais un avis. Est-ce qu'on peut entendre l'avis de Yann?
Ben, moi, au stade en soi, je ne l'avais pas trouvé mauvais. Je le trouvais même plutôt entreprenant, mais cette fois dans une configuration inverse, c'est-à-dire mieux en première mi-temps qu'en deuxième. Ce qui est un peu paradoxal vu notre match. Après, en ayant revu à la télé, bon, au final, c'est bien, mais c'est souvent en retard.
Il est tout le temps avec une seconde de retard sur ce qu'il doit faire, et à chaque fois, que ce soit défensivement ou offensivement, il a un coup de retard sur les 1-2 et du coup on sent qu'il a de la bonne volonté, qu'il veut bien faire, qu'il a des capacités techniques, qu'il a une belle frappe de balle, mais c'est tactiquement, à mon avis, il faut qu'il progresse encore, parce que j'ai des souvenirs sur son côté de ballons qui lui sont remis, et ben il s'est arrêté une seconde avant, il n'a pas fait le pas qu'il fallait. Et du coup, bah, ça permet pas de faire un décalage. Il centre très peu en première intention. C'est vraiment dommage. Il a fait un petit peu, là, contre Nantes, 2-3 centres qui sont intéressants. Mais il pourrait faire vraiment beaucoup plus. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui lui manque? Est-ce qu'il va progresser ou pas? Parce que j'ai pourtant beaucoup d'espoir sur Romain Perrault, hein. C'est un joueur, je pense, plein d'avenir. Mais qui tarde vraiment, là, après 15 matchs, à confirmer tous les espoirs que je place en lui.
Totalement d'accord avec ça.
Sur quelques montées offensives, une très bonne qualité de centre. J'ai trouvé ces centres étaient vraiment excellents, tant à ras de terre que mi-hauteur, que plutôt long. Malheureusement, il y a régulièrement personne au centre, donc c'est un peu un problème. Mais ouais, globalement, j'ai trouvé aussi quelques tendances à revenir en trottinant sur quelques situations. C'est un peu fâcheux, mais voilà, personnellement, moi, je suis un peu moins pessimiste. Non, c'est pas pessimiste, je dirais, franchement, si c'est ton caractère naturel qui parle là.
Je suis pas pessimiste, je suis un petit peu, peut-être, dubitatif. Ouais, dubitatif, on va dire, sur la capacité de Romain Perrault, finalement, à s'adapter à Brest et à la Ligue.
Tu parlais de cette seconde de différence, j'imagine que c'est aussi la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Je pense aussi qu'il a un petit problème de confiance depuis la boulette à Saint-Etienne, et qu'il a du mal à retrouver cette confiance qui le fuit, parce qu'il avait fait un plutôt bon premier match contre Toulouse, et même à Saint-Etienne, juste avant sa boulette, c'était plutôt cohérent aussi. Et depuis, j'ai l'impression effectivement que dans la tête, il y a quelque chose qui coince. Alors ce sera peut-être effectivement le rôle de, premièrement, de l'entraîneur, mais aussi pourquoi pas de Ludovic Ball, d'essayer de le faire passer ce cap, parce que finalement Ludovic Ball, il sera peut-être là la saison prochaine, mais ça dépassera pas les 2 ans au Stade Brestois. Et ce sera peut-être aussi à lui d'aider Romain Perrault à passer ce cap qu'on souhaite tous finalement qu'il passe, parce que oui, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose, quoi. C'est un bon joueur, mais il y a un truc qui cloche, il y a un petit quelque chose à creuser, et voilà, comme tu disais, ça tarde un peu à...
Après, il y a des joueurs, ce ne serait pas le premier ni le dernier à avoir besoin de 6 mois d'adaptation, une demi-saison, un championnat, un nouveau club, une nouvelle région. Il est jeune, on ne va pas non plus l'enterrer immédiatement, laissons-lui sa chance.
Absolument pas, et en plus il est dans l'esprit, donc c'est...
C'est ça.
Voilà. Il y a quand même du positif, mais il y a aussi du négatif. Donc on a parlé longuement de Yanga Mbok au milieu de terrain. On peut parler aussi du très gros match, j'ai trouvé, de Ibrahima Diallo, qui s'est vraiment affirmé comme le patron du milieu de terrain en l'absence de Belkebla. Finalement, c'était son rôle d'être le patron avec il est finalement plus âgé que son partenaire, mais il a fait valoir son expérience et on l'a vu, je trouve, dans cette rencontre.
Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il a fait un bon match dans son rôle défensif. Et vous allez dire que je suis encore un petit peu critique, mais je trouve que dans l'apport offensif, il a quand même beaucoup de lacunes encore. Dans ce sens où il récupère énormément de ballons. Il récupère des ballons parfois, on dirait que c'est simple pour lui. Enfin, vraiment, il se jette dans les pieds de l'adversaire sans faute, il arrive à ressortir.
Personnellement, quand je vois un duel avec Diallo, bah, je me dis, c'est bon, on a récupéré le ballon, quoi.
Ouais, c'est
j'ai
ça,
l'impression qu'il perd vraiment aucun duel.
Une capacité à... En plus, il a un physique qui lui permet d'avoir des appuis très rapides, etc. Mais lorsqu'il a le ballon, il devrait vraiment l'utiliser beaucoup mieux vers l'avant, plus rapidement. Et là, souvent, c'est vers l'arrière, vers Castelletto, vers Bain, vers Perrault, vers Fossurier. Et voilà, c'est là-dessus que j'aimerais le voir progresser. Mais c'est quand même un de nos très bons joueurs, à n'en pas douter, ouais.
Et il y avait eu notamment un article de l'équipe, il me semble, sur Ibrahima Diallo, juste avant le match contre le PSG, où justement un de ses formateurs à Monaco disait que c'était vraiment l'axe de progression principal d'Ibrahima Diallo, qui on lui demandait déjà de le faire un peu plus souvent lors de sa formation à Monaco, et c'est toujours le cas, il faudrait vraiment qu'il progresse pour vraiment devenir on peut appeler ça un monstre, finalement.
Avec une capacité de progresser, enfin une marge de progression importante.
Ah oui, ça c'est clair qu'il a tous les arrêts. Enfin, il a tout quoi pour devenir un excellent milieu de terrain défensif ou relayeur, mais vraiment les appuis, la capacité à boucher des espaces, puisqu'il est effectivement très tonique, très dynamique. La capacité à récupérer le ballon dans les pieds de l'adversaire, c'est vraiment, vraiment quelque chose de. Il y a peu, je dirais, de milieux de terrain défensifs qui l'ont en lien.
Et parlons également pérennité du club, même si ce sont des affaires de gros sous, etc. Je pense que s'il tape dans l'œil de certains clubs, c'est aussi un joueur qui peut, avec ses 4 ans de contrat, qui peut se monnayer assez cher. C'est un profil intéressant, très jeune, ancien international, des jeunes également, français. Je pense qu'il pourrait également rapporter beaucoup, et donc là on saluerait évidemment beaucoup de Grégory Lorenzi de l'avoir acheté à Monaco et non pas se le faire prêter une deuxième fois.
Oui, vrai. Monaco c'est vraiment la filière très intéressante, visiblement il faut continuer à piller
d'ailleurs,
Monaco,
d'autant plus
qu'ils ont
ça,
une cinquantaine de contrats pro, donc il ne faut pas hésiter.
C'est ça.
Tu avais peut-être un avis, Yann, sur Ibou Diallo?
C'est simple, hein, ce week-end j'ai regardé Chelsea jouer, il me rappelle un autre joueur, je n'en dis pas plus, je pense que vous savez...
Olivier Giroud.
On l'avait tous en tête, effectivement, c'est Olivier Giroud. On a parlé de Grand Cyr un peu, d'Autrette un peu, de Cardona beaucoup, puisque c'était notre homme du match, en tout cas à moi et à Fanche. Charbonnier, on a dit qu'il avait fait plutôt un bon match, c'est aussi mon sentiment. Enfin, il a toujours pas marqué, il a failli, il s'est procuré des occasions, il a touché le poteau. C'est vraiment pas une année sans, parce que c'est un peu fort de dire ça. Mais il n'y a vraiment pas la réussite de l'année dernière.
Bon, moi, je vais faire assez court, sinon on va faire un podcast de 2 heures. Mais voilà, il est en fait, faut voir Charbonnier sur un prisme différent. Il n'a pas le même rôle que l'année dernière. Ce qu'il fait, il le fait bien. Et il lui manque un peu de réussite. Voilà.
Voilà. Merci, Fanche, de cet avis tranché, concis, précis et qui te définit plutôt bien. Est-ce que...
Merci.
Oui. Moi, je vais être positif. C'est que sur ce match, pour la première fois de plusieurs semaines, il s'est créé des occasions tout seul. Oui. Les autres, jusqu'ici, bon, ça lui tombait dans les pieds, voilà. Là, c'est vraiment tout seul. Son poteau, il va le chercher tout seul. Il y a une autre incursion, c'est tout seul. Donc c'est mieux et ça va finir par rentrer. Enfin, il n'y a pas de raison, quoi.
Passons aux news, si vous le voulez bien, messieurs.
Moi, je le veux bien.
Ouais, très bien. C'est excellent. On va commencer, comme d'habitude, par les résultats des équipes de jeunes et des féminines. On commence par les féminines, tiens, une fois n'est pas coutume, puisqu'elles sont, elles ont cartonné à Lannion en Coupe de France, donc deux divisions d'écart en football féminin, c'est peut-être 4 ou 5 en football masculin. Donc victoire 8-0 à Lannion, donc une équipe de R2, donc qualification tranquille pour le prochain tour de Coupe de France. Elles joueront à Saint-Malo dimanche pour le retour du championnat, où elles sont toujours deuxièmes après avoir perdu contre ici le leader il y a 2 semaines. Ce sera dimanche à 14h30 pour l'avant-dernier match du championnat avant la trêve hivernale. La N3 maintenant s'est inclinée, c'était juste avant le match entre Brest et Nantes, c'était à Ménespol. Donc la N3 s'est inclinée face à la réserve du Stade Rennais, défaite 2 buts à 1. Yaya Koujabi avait pourtant ouvert le score à la 72e minute, mais Brest a encaissé 2 buts en 2 minutes, bah justement 2 minutes après l'ouverture du score. Donc c'était pas très beau à voir. La N3 est 9e avec 11 points, donc avec 5 points d'avance sur le premier relégable. Donc on se dirige vraiment sur une saison pas anonyme, parce que c'est pas vraiment le qualificatif qui décrirait mieux cette saison. L'important sera vraiment la progression des joueurs et pas la possibilité de monter en N2, puisque maintenant Brest peut monter en N2. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais ce sera sûrement pas pour cette saison. Les U18 n'ont pas joué puisqu'il y avait un tour de Gambardella. Ils retrouvent le championnat avec un match à Lorient samedi à 15h. Ils sont toujours premiers, hein. Il n'y a pas de changement, 6 matchs, 6 victoires. Et très bonne nouvelle puisque les supporters brestois ne sont pas interdits de déplacement à Lorient. Donc si vous voulez aller voir le match des U18, n'hésitez pas. Les U17 ont perdu à domicile contre Vitré. Donc Vitré qui avait aussi éliminé les U18 en Gambardella. Donc c'est un peu la bête noire de ce début de saison. C'est Guillaume Leroux donc, qui, pour sa première apparition en U17, c'est un U15. Donc c'est un double surclassement pour Guillaume Leroux. Et il a marqué, il avait ouvert le score même contre Vitré. Les U17 perdent la première place. Ils sont troisième à 2 points de Guingamp et à 1 point de Montrouge. Ils rejouent à domicile contre Vannes samedi à 14h30 à Penn-Hélène. Les U16 se sont imposés en Coupe de Bretagne contre Landerneau, victoire 3 buts à 0. Ils jouent en championnat samedi matin à 11h30 contre Plouvant pour le retour de leur championnat de R1, où ils sont premiers avec 6 victoires en 6 matchs. Et enfin, le point Dynamo Brest, qui est champion de Biélorussie. Brest champion, et oui, vous l'avez entendu pour la première fois sur Brest On Air, peut-être pas la dernière, puisque peut-être que le Dynamo Brest sera encore champion l'année prochaine. Et s'il y a toujours le podcast l'année prochaine. Mais premier titre de champion de Biélorussie pour notre homonyme biélorusse, après sa victoire 1-0 contre Vitebsk, pour s'assurer le titre et mettre fin à une hégémonie de 13 ans du Baté Borisov. Donc c'est un petit événement quand même dans le microcosme européen des champions nationaux. Donc voilà, on attend toujours le match amical entre le champion de Biélorussie et le Stade Brestois. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, le Dynamo Brest joue de mars à novembre, donc c'est difficile de caler un match amical entre décembre et janvier, mais peut-être en Coupe d'Europe l'année prochaine, puisqu'on va gagner la Coupe de Ligue. Il faut le rappeler. Et juste un dernier mot sur les jeunes, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Simon Lebras a été appelé pour un stage à Clairefontaine avec l'équipe de France U16, donc ce sera début décembre. Donc largement mérité hein, pour un... Peut-être pas le meilleur joueur du centre de formation, mais très certainement dans le top 3. Vraiment un excellent milieu de terrain qui mérite très largement sa convocation après avoir été appelé pendant quelques années en équipe de Bretagne, notamment en U15 et en U14, et tout ça pour des sélections diverses et variées. Mais voilà, un excellent joueur que vous pourrez peut-être voir s'il n'est pas blessé, parce qu'il y a 2 semaines, au moins, il était blessé, mais que vous pourrez voir contre Vannes samedi à 14h30 à Penn-Hélène.
Concernant les jeunes, je rajoute juste que le Stade Brestois a reçu la semaine dernière le label jeune FFF Crédit Agricole de catégorie élite. Donc il y avait différents critères qui étaient mis en avant, comme la qualité de l'encadrement des jeunes, des catégories de jeunes, pardon, ainsi que de différentes actions de citoyenneté pour faire grandir le jeune public à travers les valeurs du football. Donc voilà, une belle image du Stade Brestois qui est donnée là grâce à ce label Elite.
Alors du côté des anciens joueurs, Yann, c'est un peu ta chronique hebdomadaire.
Du côté des anciens joueurs, c'est pas glorieux cette semaine. Et comme on est déjà sur un long podcast, je vais me contenter de la bonne nouvelle de la semaine. Et je pense qu'elle fera sourire tout le monde ici. Édouard Butin est à l'essai avec Orléans. Quand on voit les difficultés offensives d'Orléans, on peut espérer que ça conduise à un contrat pour un mec qui le mérite, qui pour moi a encore le niveau de la Ligue 2. Donc voilà, on va retenir que cette info pour les anciens.
Au niveau des blessés également, on peut parler quand même du retour à l'entraînement de pratiquement toute la bande de blessés, donc Batocchio, Perrault qui avait été aménagé ce lundi, et Belkebla également notamment.
Et Paul Lannes.
Et Paul Lannes, effectivement. Donc c'est une ribambelle de bonnes nouvelles finalement.
Oui, bah, il vaut mieux parce que comme tu disais, c'est le gros morceau qui arrive.
C'est le gros morceau qui arrive, donc le déplacement à Marseille, un vendredi, un petit air de Ligue 2. Qui nous revient.
J'espère que c'est pas aussi.
Non, effectivement, mais bon, un vendredi qui empêche certains protagonistes de ce podcast d'aller faire le déplacement à l'Orange Vélodrome.
Ça s'est pas joué à beaucoup.
C'est un regret finalement parce que c'est comme le Vélodrome, hein, c'est un lieu pour le football français.
Surtout quand on voyait le prix des billets d'avion qui était vraiment pas cher, bon, c'est un peu dommage. C'est joué à quelques, je dirais pas minutes, mais à deux, une heure près à peu près de cours. C'est ainsi, on regardera ça à la télé, sur Canal et non Bein, attention.
Effectivement, et c'est déjà demain finalement pour vous, puisque ce podcast sortira jeudi, donc très peu de temps finalement pour écouter ce 18e numéro. Alors ce 18e numéro qui est amélioré par la présence d'un invité. Yann, tu as eu la chance d'interviewer Maxime, donc qui est un peu le rédacteur en chef d'Ultimo Dies et qui est supporter, en l'occurrence, de notre futur adversaire, donc l'Olympique de Marseille. Merci à lui déjà de nous accorder quelques minutes de son temps et on l'écoute et on revient juste après.
Bon, donc, qui dit match de gala face à l'Olympique de Marseille dit aussi invité de gala. Pour cette fois, on va donc recevoir Maxime du site Ultimo Dies. Maxime, bonjour.
Bonjour à vous et merci pour cette belle introduction.
Merci à toi pour d'avoir accepté cette invitation. Peut-être pour compléter cette introduction, tu pourrais peut-être nous dire ce que c'est un peu Ultimo Dies pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors, c'est un média qui traite de l'actualité footballistique indépendant qui existe depuis 2014. Donc, on est présent sur tous les réseaux sociaux, notamment Twitter. On a donc le site ultimodies.fr et une page YouTube qui est régulièrement mise à jour avec des vidéos de notre ami Edu. Qui parle un petit peu de cette actualité footballistique. Pêle-mêle, ça peut aller du PLM en Ligue 1 aux problématiques du Barça, en passant par celle de la Juve. Bref, on essaie de toucher un peu à tout.
Oui, un média que je recommande personnellement, je consomme assez régulièrement. Bon, ici, tu viens ici en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Actuellement, vous êtes deuxième au classement, si je me trompe pas.
C'est ça.
T'es satisfait sur ce début de saison ?
On va dire que la position de deuxième est plutôt confortable et que ça faisait quelque temps qu'on n'y avait pas eu droit. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, dans la Ligue 1 telle qu'elle est cette année, c'est un petit peu délicat pour le moment de dire si on va pouvoir rester sur le podium ad vitam aeternam jusqu'à la fin de saison. Toujours est-il que pour le moment, ça gagne pas mal de matchs. C'est pas très intéressant dans le jeu, il faut bien l'avouer, et on l'a vu encore le week-end dernier contre Toulouse, c'est un exploit de Payet qui débloque un peu une situation qui semblait très compromise malgré que Toulouse soit réduit à 10 à la demi-heure de jeu. Donc il y a du bon, il y a du moins bon, on va se contenter de parler du bon, parce que ça faisait quand même assez longtemps que le club n'a pas été dans cette position-là, et rien que pour ça, ça fait quand même... C'est un petit soulagement de retrouver le haut du panier de Ligue 1.
Est-ce que tu penses que sans renfort cet hiver, l'OM peut quand même aller accrocher avec des champions ?
Tout dépend des autres, je dirais. Ça dépend pas que de l'OM. On voit un championnat assez homogène dans lequel aucune équipe tire son épingle du jeu, hormis le PSG. Tout le monde peut battre tout le monde, et c'est vrai que l'Olympique de Marseille a un effectif relativement court, tant qualitativement que quantitativement cette saison. Mais il y a des postes vraiment très très light pour rester pour rester un petit peu modéré dans les propos. Et quand certains clubs, ou plutôt si certains clubs se réveillent, je pense à Lyon, je pense à Lille. Peut-être même à des équipes comme Saint-Té, Bordeaux, Monaco, si elles se réveillent en deuxième partie de saison et que l'OM a un petit coup de moins bien, je ne suis pas persuadé que l'OM finira deuxième. Mais pour le moment, il faut prendre les matchs les uns après les autres et puis enchaîner des victoires et des bons résultats. C'est le cas depuis un gros mois maintenant et ça fait plaisir. On se réveille le lundi matin avec le sourire, on n'avait plus trop l'habitude.
Grâce à André Villas-Boas.
On ne peut pas dire qu'il soit totalement que ce changement ne lui est pas imputable. Vraiment, je pense qu'il fait du plutôt bon travail par rapport à l'effectif qu'il a. Il a un petit peu de mal à mettre une véritable idée de jeu, une idée conductrice en place, mais c'est aussi parce que en termes de talent pur, l'effectif est limité. Je pense que si on lui donne un effectif plus pléthorique, c'est beaucoup plus simple pour lui de travailler. Aujourd'hui, il fait avec ce qu'il a. Il le fait plutôt bien. Il est dans les temps comptables, on va dire, et notamment en termes de place, parce que la Ligue 1 est homogène. Donc, oui, il fait du bon travail. C'est pareil, ça fait plaisir de voir un entraîneur qui est un peu à l'opposé, notamment humainement, de ce qu'était Rudy Garcia. Donc, en tant que supporter, ça fait du bien. C'est rafraîchissant. On avait un peu perdu cette habitude-là. Donc, en tout point, pour le moment, je dirais pas que c'est très bien, que c'est un 10 sur 10, mais c'est un bon 7. Un bon 7 ou 8 sur 10 pour AVB. On verra en fonction du mercato hivernal. Mais pour le moment, en tout cas en termes de mercato, il s'est pas trop trompé sur Benedetto et Zoubi s'est pas trop trompé sur Rongier. Donc, ça présage peut-être enfin des bons coups en termes de mercato pour l'effectif.
Bah, en tout cas, on vous le souhaite. Justement, André Villas-Boas découvre la Ligue 1 cette saison. Donc, conséquence logique, il va découvrir le Stade Brestois.
Exactement, ouais. Alors, je sais pas s'il s'attendait vraiment à découvrir le Stade Brestois, s'il est venu pour ça. Mais en tout cas, effectivement, il va découvrir Francis Leblay cette année.
Je pense bien, toi, par contre, tu ne découvres pas forcément le Stade Brestois. Est-ce qu'en tant que supporter marseillais, tu as des souvenirs du Stade Brestois ou c'est vraiment
pas grand-chose? Moi, j'en ai un particulièrement. Alors, j'ai dû remonter dans mes archives juste pour trouver le nom du buteur. Mais c'est une défaite qui m'avait marqué. C'était pendant la saison 2011-2012. Et c'est un peu une défaite qui avait enclenché une spirale négative. C'était la dernière année de Deschamps. Et on avait fait, je sais plus de mémoire, 10 ou 12 matchs sans victoire dans cette deuxième partie de saison, au même moment où on joue un quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern quand même, ce qui est assez paradoxal, et les joueurs avaient un peu lâché la Ligue 1 et on avait été perdre au stade Francis Leblay sur un but de Paul Bess. Voilà.
C'est ça.
C'est quand même un petit camoulox quand tu joues la Ligue des Champions, mais voilà, c'est aussi ça l'Olympique de Marseille. Et c'était le début de la fin pour Didier Deschamps.
C'est ça, pour l'anecdote, j'ai vu que l'écharpe que le Stade Brestois avait sortie à l'occasion de ce match-là était sur... Il y a un tableau au Vélodrome où il y a plein d'écharpes d'adversaires historiques. J'ai vu que l'écharpe était dessus.
Oui, donc, c'est vrai que... ouais, effectivement, il y a plein d'écharpes. Alors, je n'ai pas, remarqué celle-là, je t'avoue. mais ça doit être un bon souvenir pour le club. Hein, il a dû marquer. Hein.
Bah, surtout que c'était des points qui ont compté à cette époque-là. On était déjà dans une situation où on jouait le maintien. C'est encore le cas cette saison. Toi, d'un œil un peu extérieur, tu penses que le Stade Brestois peut se maintenir?
Moi, je les aurais pas mis effectivement dans mon duo de relégués direct en début de saison. Je voyais plus une équipe comme Nîmes tomber et potentiellement une autre équipe comme Toulouse, parce que sur la dynamique que vous aviez l'année dernière et sur les premiers matchs de championnat, on va dire en rapport qualité de jeu, qualité d'effectif, je trouvais ça cohérent. Et alors il y aura forcément des moments un petit peu plus compliqués comme chaque promu, Mais je trouvais qu'il y avait des arrivées qui étaient plutôt sympas. Alors, à vous de me dire aussi si tout le monde s'est bien intégré, parce que je ne suis pas assidûment et pas assez toutes les semaines le stade brestois, mais sur le papier, voilà. Quelqu'un comme Denis Bain, comme Romain Perrault, Samuel Grandcyr qui avait besoin de se relancer aussi. Moi, je trouvais que c'était un bon mercato de promu, sachant que vous aviez quand même gardé pas mal de mecs qui étaient déjà l'année dernière et qui faisaient largement le taf. Donc, moi, je vous avais pas mis, en tout cas, dans mes favoris à la descente en début de saison. Et je continue de penser que vous pouvez accrocher entre la 17e et la 15e place.
Ok, bah, nous, honnêtement, je vais pas te mentir, ça nous irait parfaitement.
J'imagine que tu signes tout de suite.
Ah oui, oui, très clairement. Très, très clairement. Je signerai aussi pour un point au Vélodrome ce week-end. Je suppose que c'est pas ton cas.
Non, clairement, ça fait partie des matchs que l'OM doit gagner si l'OM veut continuer sa marche en avant et asseoir cette deuxième place. Surtout qu'on est dans une dynamique plutôt positive. Il s'agirait de pas la casser contre un promu. Alors l'année dernière, on s'était déjà un peu cassé les dents contre Nîmes et contre le Stade de Reims. Cette saison au Vélodrome, on a quand même tendance à ne pas perdre. Je crois que si ma mémoire est bonne, on est sur 4 victoires en 7 matchs. Je connais pas exactement votre dynamique, vous, à l'extérieur. Pour un promu, j'imagine que c'est parfois un petit peu compliqué de se déplacer. Mais effectivement, ça serait bien pour l'OM d'enchaîner cette 4e victoire consécutive. Tout le monde ne le fait pas en ce moment en Ligue 1, et ça pourrait créer justement une petite cassure en tête, et tous les points qu'on peut prendre maintenant seront des points qu'on n'aura plus besoin de prendre après. J'imagine que c'est pareil pour vous dans nos objectifs respectifs. Donc, mais je comprends, et sur un malentendu, ça ne choquerait pas qu'un vieux 0-0 de vendredi soir apparaisse comme ça, comme par magie.
Bah, nous on signe encore, comme je te le dis. Justement, tu parles de cette série vous êtes sur 3 victoires consécutives, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Est-ce que malgré ça, il y a quand même certains domaines qui sont un peu inquiétants actuellement, qui peuvent en gros donner de l'espoir au Stade Brestois en vue de ce déplacement?
Dans le jeu, c'est quand même, c'est pas folichon. Les victoires à domicile, elles sont actées contre des adversaires qui ont quand même une solide réputation. On reste quand même sur une victoire contre Lyon. Sans doute un match qui a été regardé par beaucoup, et une victoire contre Lille 2-1 qui était un poil poussive aussi. Je dirais que défensivement, ça va. Bizarrement, cette année, même si on a pris pas mal de buts, notamment contre le PSG, et ça a fait mal à la différence de buts, globalement, ça va. Et c'est plus dans le jeu et la capacité à faire déjouer l'adversaire. Contre un bloc bas, j'ai toujours cette crainte de ne pas voir l'OM inscrire rapidement le but. On l'a vu, même si c'était à l'extérieur, on l'a vu contre un Toulouse à 10, où Toulouse a globalement tenu son plan jusqu'à la 80e et le but de Benedetto. Donc il y a toujours un petit peu cette crainte de ne pas ouvrir le score. Après, quand l'OM ouvre le score à domicile contre plus faible, généralement, et on l'a vu contre l'Olympique Lyonnais, c'est l'occasion de mettre une petite crotte de nez aux Lyonnais, ça gagne.
Et contre des blocs hauts, justement, puisque c'est plutôt dans cette configuration que le Stade Brestois devrait arriver.
Eh bien, contre des blocs hauts, moi, j'ai pas souvenir... On s'était heurté à Amiens, où une défaite 3-1, là-bas. Alors, c'est pareil, le contexte est un petit peu différent, mais généralement, on a un peu de mal aussi. Alors après, votre puissance de frappe se résume, à mes yeux, à deux joueurs qui sont d'un côté Charbonnier, de l'autre côté Johan Cour. Je sais pas si vous êtes plus ou moins d'accord avec ou si c'est un gros cliché lié à une méconnaissance relative de votre club, mais je me dis que si on bloque ce schéma là eh bien on devrait pouvoir, malgré tout, malgré le bloc haut, pouvoir prendre en compte. Après, la vraie difficulté face à un bloc haut pour l'Olympique de Marseille, c'est la capacité à se projeter vers l'avant. Parce que on n'a pas d'ailier, on n'a pas de petites bombes sur les côtés, on a Radonjić, qui est une petite bombe, mais qui est trop une petite bombe encore, qui doit un petit peu se canaliser. Son but va peut-être lui faire du bien d'ailleurs. Donc à voir. Je pense que ce sera une belle opposition de style. Et si vous venez pour clairement pas pour rester à 11 derrière et pour faire chier l'OM, eh bien il y a possibilité effectivement que vous mettiez un petit but et que vous fassiez douter l'OM, qui c'est rare, c'est très très rare que l'OM gagne sans être inquiété de la première à la dernière minute. Il y a toujours un moment de flottement. Et donc une équipe réaliste avec une bonne mise en place tactique pourrait effectivement embêter l'OM sur 90 minutes.
Pour le match à venir, est-ce que tu aurais un homme à suivre de chaque côté ?
Excellente question. Du côté de l'OM, je t'aurais bien dit Valentin Rongier, qui monte en puissance ces derniers temps et qui clairement sort bonne prestation sur bonne prestation depuis qu'il a été tranquillement mis en route par Villas-Boas. Après, chez vous, j'aurais peut-être aussi tendance, alors j'aurais eu tendance à dire court, mais qui n'est pas là. J'ai hâte effectivement de voir, même s'il n'est pas super en réussite pour le moment, si je dis pas de bêtises, il a un ou deux buts de mémoire, Gaëtan Charbonnier. J'ai hâte de voir comment la charnière va pouvoir gérer ce type de profil un peu atypique en Ligue 1, où on a plutôt tendance à avoir désormais en neuf des petites bombes, des joueurs plutôt véloces, mais énormes, mais capables par contre de coups d'éclat des deux pieds, de la tête. À mon sens, alors peut-être que je le surcote un petit peu, mais j'avais pu le voir aussi jouer à Reims. Je trouve que c'est un joueur qui est plutôt complet, qui a quand même un sens du but. Il a un sens du but.
Tu parles d'une charnière qui sera opposée à Charbonnier, mais ça serait laquelle du coup ?
Alors, Alvaro Gonzalez sera toujours suspendu. Il avait pris deux matchs. Ce devrait être Caleta-Char Camara, une charnière qui a été régulièrement mise en place, notamment l'année dernière. Après, attention au positionnement de Camara, qui pourrait très bien se retrouver en 6 à la place de Strootman, qui est un petit peu en ce moment dans le creux de la vague, on va dire, où c'est une énorme vague en tout cas, depuis qu'il est arrivé à l'OM, il est dans le creux d'une énorme vague. Mais attention, moi j'y crois peu, mais c'est une possibilité que KVB se laisse de temps en temps. Quand on voit la performance de Lucas Perrin ce week-end, même s'il n'a absolument rien eu à faire contre Toulouse, on le sent monter en puissance aussi au fil des prestations. Il avait été un peu moyennasse contre Amiens, là c'était un petit peu mieux. Donc à voir, Caleta-Char Camara normalement, ou Caleta-Char Perrin s'il y a une petite surprise d'AVB.
Ok, très bien, très bien. Bon, on va finir sur un classique. Un petit pronostic, c'est pas pour mettre la pression, nos deux derniers invités avaient le bon score.
J'espère porter chance à l'Olympique en disant 2-0. Ah, Pipa, hein. Pipa, toujours Pipa. Il se crée toujours généralement des occasions, et puis il touche aussi pas mal de ballons contre les plus petits. Donc bien servi, Benedetto, ça peut le faire. Alors on n'a pas parlé de l'Arseneur, mais qui est pour moi l'un des tout meilleurs gardiens qui est top 5 en Ligue 1, vraiment, et qui fait à mes yeux une super saison, qui est une belle révélation.
Alors, messieurs, l'Olympique de Marseille. Alors, c'est pas l'Olympique de Marseille d'antan, mais ça reste quand même une équipe beaucoup plus solide, peut-être que les années précédentes, avec certaines possibilités à gagner à domicile, ce qui était rarement le cas les années précédentes, peut-être depuis le départ de Marcelo Bielsa. Et y aura un match plutôt difficile à jouer au Vélodrome.
Bah moi, quand j'ai commencé à préparer le podcast, je me suis dit, est-ce que ça fait pas partie, ce genre de match, quelque part, des matchs un peu, entre guillemets, un bonus, dans le sens où c'est pas là qu'on est censé prendre des points, quoi. En plus, Marseille joue avec ambition, joue le podium, les ambitions sont clairement affichées, hein. Ils sont en progrès aussi depuis quelques matchs, le match face à Lyon. Bon, contre Toulouse, c'était Yann, on a regardé, c'était pas dingue, mais ils ont quand même gagné. Et il y a quand même un état d'esprit, en plus, dans cet effectif marseillais qui est intéressant. Ils ont l'air d'avoir un bon collectif. Bon, dangereux, je pense, match dangereux, mais match qui n'est pas perdu d'avance, à mon sens.
Il y a toujours des possibilités pour les adversaires à Marseille.
Bah, Reims avait gagné là-bas, Montpellier a fait un nul, de mémoire, hein. Il doit y en avoir peut-être d'autres qui me sortent de l'esprit. Mais après, je pense que pour espérer quelque chose, il faut quand même le retour au milieu de terrain de Belkebla, de Lan, en tout cas d'une équipe qui se rapproche plus de l'équipe type. Sachant qu'à Marseille, il y a Alvaro qui est suspendu derrière. Donc ils vont jouer avec certainement Perrin et Camara. Perrin qui n'est pas non plus l'assurance tout risque. Hein. Donc je pense qu'il y a moyen de marquer. Il faudra voir comment est-ce qu'on réagit défensivement. Mais il y a moyen de marquer un but au Vélodrome. À moins qu'il fasse Perrin qualité de char et qu'il remette Camara en 6 comme il le fait depuis plusieurs matchs maintenant. Il avait dû redescendre là, à cause des suspendus. Mais Camara en 6, c'est pas mauvais. Et à moins qu'il fasse une voilà.
Il est même très bon.
Très bon, ouais. Même s'il n'aime pas jouer. C'est un peu comme Marquinhos. Il est bon à ce poste-là, mais il n'est pas forcément. Lui, il n'aime pas forcément envie de jouer là. Faire attention aussi à Payet hein, qui est en forme. Benedetto qui a retrouvé le chemin des filets. Faudra faire gaffe. Après, ils ont aussi des lacunes, Marseille, hein, clairement, sur les côtés. Que ce soit Sakai, Amavi, bon, c'est pas des joueurs excellents, hein, donc il y a moyen de faire quelque chose.
Au niveau du Stade Brestois, on débute une semaine compliquée, puisque c'est une
très
semaine
très compliquée.
Avec trois matchs. Et on a vu en fin de match contre Nantes que physiquement, c'était un peu compliqué, parce que là où on pouvait et on devait finalement. Appuyer sur l'accélérateur en essayant de marquer un deuxième but sur la lancée de l'égalisation, on n'a vraiment pas réussi et je pense que physiquement c'était assez dur en fin de match contre Nantes et cette semaine à trois matchs alors qu'on arrive fin novembre, début décembre avec des pelouses et notamment à Brest puisque effectivement il pleut depuis belle lurette et depuis presque un mois quotidiennement, les organismes commencent je pense et on le voit avec la multitude de blessés finalement. Les organismes commencent à être assez impactés et ça peut finalement faire un peu peur cette semaine à trois matchs.
Surtout que par le passé, on ne peut pas dire que les semaines à trois matchs nous aient beaucoup réussi. À chaque fois qu'il y a eu trois matchs, on a perdu le troisième. Donc là, ce sera que le second contre l'OM, mais après, celui de Strasbourg est pour moi plus important. Hein, dans le
ce
sens
sera le premier contre l'OM.
Ah ouais, d'accord, ok, si tu prends ça, ok, excuse-moi, je pensais que tu prenais la partie Nantes.
Non, je dirais OM. Marseille, Strasbourg et Lille.
Et Lille, d'accord. Ok, oui, d'accord, je comprends.
Alors, techniquement, c'est pas 7 jours, mais ce sera 8, hein, il me semble, puisqu'on joue le vendredi et le samedi.
Oui, on a un petit peu plus de récupération.
Ça reste 3 matchs en une semaine. Et on a peut-être la bonne nouvelle de jouer le vendredi pour démarrer et finalement peut-être avoir un jour de récupération supplémentaire par rapport à notre adversaire de minute semaine.
Et sachant que Lille qu'on va affronter joue également en Ligue des Champions là le jour où on enregistre, c'est-à-dire enfin demain, c'est-à-dire mercredi, donc la veille pour vous. Donc encore un match de même s'ils sont éliminés, ça fait un match de plus dans les jambes. Bon, ça peut pas nous être défavorable.
Alors comment aborder cette rencontre contre l'OM ?
Il faut l'aborder en étant en faisant douter cette équipe de Marseille, en allant jouer chez elle, en allant dans leur camp. Les mettre sous pression parce que derrière ils peuvent faire des grosses conneries. Ils ont un très bon gardien en revanche, mais il faudra pas, faudra vraiment y aller avec l'ambition de remporter la rencontre. Il y a pas de, et si même si on prend 4-0, bah au moins qu'on essaye, qu'on tente quelque chose et pas de regrets surtout, pas de regrets.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on avait l'impression que le Stade Brestois ne sait faire que ça, d'aller jouer à l'extérieur contre n'importe qui, et c'est un motif d'espoir finalement de à chaque match de se dire que. On ne peut que gagner en jouant et on est sûr qu'on va jouer. Donc, il y a eu quelques ratés, notamment à Amiens, mais qu'on peut expliquer par l'absence de quelques joueurs. Mais on arrive toujours dans cette mentalité-là de jouer pour gagner. Et c'est assez agréable d'en parler et de le voir. On lit les paroles aux actes. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui parlent de jouer et d'imposer leur style de jeu, et Brest vraiment essaye de faire ça contre n'importe qui, et du coup ça offre des motifs d'espoir, notamment sur un déplacement à Marseille.
Après je pense que si on va là-bas avec pour la seule ambition de tenir le 0-0, ça peut faire mal, donc autant essayer de faire quelque chose, et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. En plus à l'extérieur, on sait que là on n'aura pas le ballon pour faire le jeu, donc il y aura peut-être des espaces, Marseille va devoir se découvrir, surtout s'il n'arrive pas à ouvrir le score tôt. Donc ça peut nous être profitable peut-être. Après, voir quel compo est-ce qu'on met en place, moi je vais pas là-bas avec Mathias Autrette, hein, titulaire, clairement pas. Il est pas à l'aise quand on n'a pas le ballon, alors je pense qu'il faudra revenir avec soit du Belkebla, Diallo, sûr s'ils peuvent jouer avec Lan ou Batocchio.
Le retour du 4-3-3 donc.
Eh oui.
Yann, est-ce que tu es d'accord avec ce retour du 4-3-3 proposé par coach Fanch?
Oui, aucun doute là-dessus. Je rejoins même l'analyse de Fanch sur les espaces. Je sais pas si vous en souvenez, mais c'est comme ça que Marseille va perdre à Amiens. C'est en n'arrivant pas à marquer et en ouvrant tout le jeu derrière. Je pense que c'est prenable. Enfin, c'est prenable surtout au milieu. Je veux dire, si on aligne un Belkebla Diallo en face d'un Rongier Sanson, je pense pas qu'on soit moins bon.
Mais finalement, on peut Rongier revient,
non, parce qu'il était, comme il vient derrière Marseille, Rongier arrive à.
Monte en
puissance. Sanson, par contre, c'est. Bon, c'est, il y a du bon et il peut y avoir aussi du très mauvais. Donc, on peut espérer gratter quelque chose.
Tu parlais du 4-3-3. Est-ce que Cardona débutera titulaire chez toi?
Ah, moi, oui, sans aucun doute. Tu peux pas le sortir après le match qu'il a fait. Ce serait pas compréhensible. De le sortir après le match qu'il a fait contre Nantes. Ou à moins que tu justifies ça, pour le conserver, le mettre titulaire contre Strasbourg, à la limite, ça peut peut-être s'entendre, mais je ne serais pas d'accord avec le choix.
Et justement, oui. Ça. Vas-y, Yann.
Bah, en l'absence de Yuan Cour, il n'y a même pas de débat. Voilà.
Bah, c'est ça.
Ah, donc vous chiez sur ma question un peu. C'est ça que je comprends.
Non, pas du tout. Bon, je suis pas du tout sur la question, mais non, c'est vraiment que bah, pour nous, ça, je sais pas comment dire, ça paraît logique en fait, quoi.
Oui, tout à fait.
Toi, mais... tu l'aurais pas mis.
Non, mais c'est avec la perspective justement de cette semaine à trois matchs. Est-ce que il y aurait des changements parce que, comme je disais, donc on arrive fin novembre, début décembre. Est-ce que c'est nécessaire de faire des changements par rapport aux trois matchs consécutifs? À un peut-être pas contre Marseille, mais à un certain moment dans ces trois matchs.
Moi, je formulerai pas comme ça. Je demanderai plutôt si on peut se permettre de faire des changements.
C'est ça. Moi, je suis pas sûr.
On arrive à un moment où chaque point va commencer à compter. On en a trop perdu en route. On va pas pouvoir se permettre d'aligner volontairement une équipe plus faible sur un match.
C'est ça. Il va falloir qu'on fasse des coups quelque part, de toute façon, hein, pour récupérer les points. Et il faudra... Les autres équipes, tous les ans, on voit des équipes aller faire des grands. Dijon a battu le PSG. Reims a été gagné, même si Reims est assez costaud, a été gagné à Marseille. Il y a des équipes qui font des coups à Lyon, à Amiens, faire nul à Saint. Il faudra qu'on aille faire des nuls chez les gros, si c'est aussi nécessaire. Pour moi, c'est obligatoire.
Mais par exemple, est-ce qu'il vaut mieux un Diallo fatigué qu'un Mbok en pleine forme?
Ah, bah ça, après, c'est pas facile à dire, tout ça. Tu nous poses des cols aussi.
Non, mais c'est ça en substance ce que je voulais dire, parce qu'effectivement, si tout le monde est à 100%, ça n'a aucun sens de faire tourner. Mais l'idée de faire tourner, c'est justement pour que tout le monde soit à 100% et que peut-être il y aurait quelques individus qui ne le seraient pas.
Je ne sais pas. Après, c'est le genre de question qui est assez difficile, auquel c'est assez difficile de donner une réponse un peu pertinente, parce que comme on n'est pas à l'entraînement, on ne peut pas juger de l'état de forme des uns et des autres. Du coup, je pense que là, on est obligé de faire confiance au staff, en fait. Moi, j'aurais pas fait tourner à Marseille ni contre Strasbourg et à voir contre Lille après. À voir.
Et est-ce que finalement, c'était une bonne nouvelle d'avoir tant de blessés avant et qu'ils reviennent juste avant ce match contre Marseille, mais avant cette semaine à trois matchs et ils arriveraient peut-être un peu plus frais que certains?
Après, c'est toujours la même chose, est-ce qu'ils reviennent à 100% ou pas?
Voilà, c'est ça la question.
Donc on peut pas dire. Pareil, il faudrait qu'on soit dans le club et qu'on voit les états de forme de chacun. Il y a pas comme sur le manager genre 95% machin. On sait pas si Belkebla va revenir et moi je pense que Belkebla, vu ses déclarations dans la presse et le fait qu'il soit supporter de Marseille, à mon avis, il s'est un peu préservé pour ce match la semaine dernière. Je sais pas, je suis pas dans les secrets du vestiaire. Mais à mon avis, il a pas pris de risque parce qu'il veut vraiment jouer à l'OM. Donc je pense qu'il devrait être là. L'âne, c'était prévu qu'il revienne lundi, donc techniquement, il devrait être bien aussi. Donc je pense que ça devrait le faire.
On a quelques d'ailleurs, peut-être pas... Belkebla, si, est supporter parce qu'il va régulièrement en virage. Il y a quelques sympathisants de l'OM dans notre effectif, avec notamment notre gardien Conquetois, qui est plutôt pro-OM. Il aura peut-être à cœur de faire un très bon match au Vélodrome.
Bah oui, sûrement. Oui.
Ce qui ne serait pas trop.
Non, oui, on aura besoin de lui, ça c'est sûr.
Un des hommes à suivre
Alors moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est Payet qui vraiment, pourtant je suis pas forcément un énorme fan de Payet, mais il faut quand même avouer que quand il est bon, qu'il peut faire des belles choses. Je le trouve très intermittent sur un championnat, et généralement, bon, il a fait un très bon match contre Lyon, mais contre les gros c'est pas trop ça, et il a contre Toulouse, il fait une merveilleuse passe décisive à Benedetto, je sais pas si vous l'avez vu. Donc moi ce sera vraiment Payet à surveiller, en plus on sait, on connaît sa capacité sur coup de pied arrêté, ce qui n'est pas forcément notre point fort, donc méfiance à Dimitri Payet, en espérant qu'il ait mangé 2 ou 3 McDo dans la semaine pour être un peu plus lourd.
Pour moi, ça va être de l'autre côté, c'est Stéphane Landa, qui a un très bon début de saison. Pour moi, si on veut battre l'OM, il faudra être réaliste, il faudra être efficace, et il faudra que Stéphane Landa ne soit pas dans un grand jour, encore une fois.
En espérant qu'il ait mangé quelques jambons, lui aussi, dans la semaine. Alors de mon côté, ce sera Nemanja Radonjić, puisqu'il vient de marquer son premier but de la saison contre Toulouse, et peut-être son premier but depuis qu'il est arrivé à l'OM, hein, il me semble.
Non,
oui, si, en Ligue 1.
Ah voilà, en Ligue 1.
Après, je ne sais pas s'il a marqué ailleurs, mais en Ligue 1, c'est le premier, c'est sûr.
Très bien, bah voilà, donc peut-être, je pense que c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance, et qu'il avait besoin de ce premier but, alors je ne sais pas s'il sera titulaire, peut-être pas. Peut-être que justement son rôle de joker lui sied plutôt mieux qu'un rôle de titulaire où il arrive, il arrive face à des défenses un peu plus fatiguées. Mais pour moi ça reste un joueur correct, et il est capable sur un coup de marquer un beau but. Il l'a fait à moult reprises avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors Brest n'est pas un adversaire serbe. On n'est pas Vojvodina ou Čukarički, mais c'est aussi pour ne pas faire oublier que je suis membre de la team Footballski et que donc je dois représenter mes joueurs avec force et honneur. Côté Brestois désormais, on va avoir un petit bel Kebla contre l'OM.
Tu as posé la question de savoir si Cardona allait être titulaire ou pas. Moi, je l'ai mis carrément en homme à suivre pour savoir s'il peut confirmer. Maintenant qu'il sera un petit peu plus, si je puis dire, attendu. Voilà, c'est l'homme que j'attends de voir à l'OM. Ancien Monégasque, il y a sûrement des gens qui viendront le voir. Bon, sudiste.
Ni moi, on le rappelle.
Ni moi. Allez, Irvine.
Je ne vais pas être original, je vais faire gardien contre gardien. Pour moi, ce sera leur sonneur. C'est une grosse équipe en face, on l'a dit. A priori, il a plutôt une bonne image de l'OM. Et puis, je suis pas sûr qu'il y pense, mais les Marseillais pourraient y penser, c'est que Stéphane Mandanda va bien falloir remplacer un jour.
C'est 40 millions.
S'il fait une très très grosse performance au Vélodrome, évidemment, son nom reviendra. Je dis pas que l'OM va essayer de le chercher, mais voilà.
D'ailleurs, finalement, c'est assez surprenant de le voir assez peu mentionné dans les rumeurs. Alors, on sait que les marchés des gardiens, c'est assez particulier, parce qu'il faut évidemment un départ pour dénicher sur une arrivée. Il y a assez peu de rumeurs autour de Gauthier Larsonneur, qui est quand même international espoir. Hein, donc,
je pense que là, la Ligue 1 et les dernières prestations qu'il a pu faire, à mon avis, ça va lui donner une visibilité qui sera plus grande, et elle devrait arriver, les sollicitations. Et même, je pense qu'il en a déjà eu, de toute façon, c'est pas sorti dans les médias. Mais là, je pense qu'on va en entendre parler, pas au mercato hivernal, parce que généralement, les gardiens, ça bouge pas à l'hiver. Mais cet été, à mon avis, on va en entendre parler un petit peu. Ouais.
Notamment pour faire la comparaison avec Paul Bernardoni, qui avait été excellent assez à Clermont, hein, il me semble.
Ouais.
Et voilà, il avait fait le pas avec Bordeaux. Alors, c'est pas toujours le bon choix, hein, comme on peut le voir avec ce fan de cyclisme.
On salue donc.
Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est assez surprenant, moi, je trouve, de le voir assez peu dans le. Comme tu le dis, ça a peut-être pas sorti dans les médias, mais voilà. C'était mon avis. Alors, de mon côté, je vais parler de Denis Bain, puisque donc on aura besoin d'un très grand Denis Bain, peut-être le même Denis Bain que contre Angers, pour faire une bonne performance au Vélodrome. Denis Bain qui reste donc sur un match un peu coussi coussa contre le FC Nantes, et à voir si c'est vraiment une mauvaise passe ou juste un petit accident de passage. Et ben, j'espère que ce n'est qu'un accident, parce que finalement il a coûté que 0 euro.
Oui, et puis au-delà de la blague, quand tu arrives de Ligue 2, que tu disputes ton 14e match ou 13e match de Ligue 1, c'est logique aussi d'avoir des petits moments où, sans qu'il eût été catastrophique, hein, mais non, d'avoir ça, des petits ça. Moments un peu moins bien. Et bon, tu parlais de la progression d'Embok tout à l'heure, je pense que la progression de Denis Bain, sa progression à lui, passe aussi par ce genre de match un petit peu moins bon. C'est logique.
Et c'est peut-être alors le premier individuellement où il est un peu en dessous. Généralement, c'était collectivement que l'ensemble de l'équipe du Stade Brestois coulait. Là, c'était peut-être la première mauvaise performance individuelle de Bain cette saison, donc on peut lui accorder ça.
Ben oui.
Oh là 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 là. Oh non. Est-ce qu'on va couper au montage ou pas? Ça le mérite peut-être. On a fait. On a été complet, je crois, sur Marseille-Brest. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter?
Bah non, mais comme tu disais, ouais, juste faut profiter parce que bon, on ne sait pas combien de temps on va rester en Ligue 1, on espère le plus longtemps possible, mais des Marseille-Brest, c'est pas tous les jours. On en a fait des Niort-Brest, des Châteauroux-Brest, des Orléans-Brest. Et là, bon, le fait d'aller au Vélodrome, même si on ne peut pas s'y rendre, de voir notre équipe y évoluer, en tout cas, je trouve ça vachement plaisant. Et voilà, je suis content d'avoir ce genre de match en fin de semaine.
Est-ce que tu sais ce qui est plaisant également, Fanch?
Non, mais tu vas me le dire.
Ce sont les jeux présentés par Yann, le meilleur présentateur du PAF, qui est de retour pour des jeux qui s'annoncent explosifs après plusieurs semaines d'absence. Donc les jeux sont de retour pour le plus grand plaisir des auditeurs, évidemment.
Et qui dit Noël dit jeu, donc qui dit jeu dit Noël, donc qui dit grande qualité.
Ça va vous dire.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, je crois qu'il allait sortir un quiz spécial Noël de Grette. J'allais quitter la conversation.
Non, 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 ça sera un...
En quelle année est-il mort?
Oh...
Oh, c'est honteux. Pas encore.
Dans la Vologne.
Ou sous la terrasse, ça dépend.
Non, plus sérieusement, ça sera un quiz, évidemment, Olympique de Marseille, Stade Brestois 29. On va commencer avec une question qui est, mine de rien, assez difficile. Actuellement, dans l'effectif du Stade Brestois, il y a un joueur qui est né à Marseille. Qui ?
Un joueur qui est né à Marseille ?
Oui.
Est-ce que
ce n'est pas Perrault.
Titulaire ?
Non.
D'accord. Ah putain, ça me dit un truc pourtant.
Si je peux vous donner un indice, son nom sans le sud.
Son nom sans le sud.
J'aurais dit Julien Fabry, mais effectivement, il n'est plus là.
Il n'est plus là.
Alors, ouais, c'est pas facile. Tu nous as trouvé des premières questions, tu tapes fort, toi. Un joueur qui est né à Marseille. C'est pas une recrue ?
Paul Lanne.
Non.
Ah.
Parce que tous les sudistes sont des ânes, bravo. Super la mentalité, là. Hein. Attends, merde. En plus, j'ai du mal à me remettre l'effectif dans la tête. Est-ce qu'il a joué en Ligue 1 cette année ?
Il a joué quelques minutes en Ligue 1. Mais il a surtout joué en Coupe de la Ligue.
Magnetti.
Eh oui, ah, Hugo oui. Magnetti. Donc
né
à Marseille, supporter de l'OM. Voilà, peut-être qu'il rentrera, hein, ça serait bien pour lui. On va rester sur cette logique un peu ancien Marseillais à Brest. C'est qui le dernier joueur à être passé par l'OM et qui a signé à Brest?
Fabry.
Oui, c'est Fabry. Bon, je vous donne un point tous les deux parce que... Voilà, comme Quentin l'avait évoqué, la question était plus simple.
Oui, j'étais déjà en avance sur mon temps.
C'est ça, si on veut. On va rester toujours sur cette problématique des anciens Marseillais à Brest. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une année un peu funeste, l'Olympique de Marseille a prêté Florian Raspantino au Stade Brestois.
Voilà, le joueur combien qui a oublié en touche.
C'est ça, combien de buts a-t-il marqué avec Brest?
5.
Quentin?
3.
C'était entre les deux, donc c'est 4. Je vous donne aucun point, hélas. Et vous êtes aussi près l'un que l'autre, donc c'est compliqué de faire autrement. Donc c'était 4 buts. C'est pas fameux. Et on va terminer avec cette fois les joueurs actuels de l'OM. Là, on va voir votre assiduité sur un fameux quiz que j'avais fait il y a quelques temps. Dans l'effectif de l'Olympique de Marseille actuellement, quel joueur a marqué le plus de buts pour le Stade Brestois 29 dans sa carrière?
Contre le Stade Brestois 29 ?
Contre le Stade Brestois 29.
Payet ?
Payet, ouais, je dirais.
Oui, donc, pour vous départager, combien de buts a-t-il marqué ?
Moi, je dirais 5.
Bah, moi, je dirais 4.
Et c'était 3, donc on va accorder le point à François qui était plus
Alexandre
près.
Mendy du quiz, tu arrives toujours à côté.
C'est pour ça, oui. C'était 2 buts avec Saint-Etienne et 1 avec Lille, il me semble.
Oui,
donc voilà.
C'est... Peut-être qu'on devrait renommer le quiz Alexandre Mendy, comme il y a la Coupe de la Ligue des Gâtés.
Ça se fait, ça se fait. En tout cas, on espère que son décompte restera bloqué à 3. 3, sauf erreur de ma part, c'est aussi le nombre de points de François aujourd'hui.
Oui.
Un seul pour Quentin.
Pas d'erreur de ta part, effectivement. 3 points, c'est également ce qu'on espère pour Brest vendredi.
On l'espère.
Parce que finalement, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est aussi de gagner de l'argent. Et comment faire pour gagner de l'argent ce week-end en pariant sur Marseille-Brest, messieurs?
Bah, moi, j'ai tout faux à chaque fois, donc là, je vais tenter un score.
Bah, déjà, on a la réponse, donc ne suivez pas France pour gagner de l'argent.
Un score exact. Ah, et oui, comme le match est sur Canal et que je n'ai pas Canal, je ne pourrai pas enregistrer le match, donc on a une chance. Donc du coup, mon score exact sera un partout.
D'accord. Ah.
Optimiste.
Mon pari à moi est très très petit joueur. Il rejoint un peu celui de Franche, c'est les deux équipes marquent. C'est 1,85.
Ah bah j'allais donner la même chose. Plus de 3,5 buts, je pense.
Ah oui.
Et c'est coté à 2,70.
C'est une belle cote qui se tente, oui.
Ça sent le match à but.
On espère beaucoup de buts brestois.
Oui, on espère plus de buts brestois que de buts marseillais.
La dernière fois, j'ai dit que ça sentait le match à but. La dernière fois que j'ai fait mon analyse en disant que ça sentait le match à but en étayant des arguments et tout, on a perdu 1-0 à Amiens. Donc moi, je dis plus rien maintenant.
C'est-à-dire la capacité de ce podcast à ne pas se tromper et à toujours taper dans le mille. Nous avons un podcast numéro 18 enregistré, donc je pense qu'on a, été complet sur les différents matchs qu'on devait aborder, les différents sujets sur lesquels nous devions débattre. Merci messieurs d'avoir été avec moi. Merci
c'est
à
nous
vous
qui te
si
remercions.
Vous arrivez au bout de cette heure de podcast. Et on se retrouve alors peut-être pour un petit épisode pour débattre et pour analyser le match contre Marseille et présenter celui de Strasbourg. Peut-être pas, à voir selon nos disponibilités.
C'est ça.
Mais si ce n'est pas le cas, à la semaine prochaine, même heure, même endroit, donc jeudi prochain, sur les différentes plateformes, à la semaine prochaine, et allez Brest!
Le bras en bas de la croisière, et dans la planche baleinière, Jean-Boué, notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.